Damien et Sybille Véron, bonjour.
Bonjour.
Il va y avoir bientôt 4 ans que votre sœur Tiphaine a disparu à Nikko, au Japon. Nous en avons déjà parlé à RFI. Pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, Damien, qu'est-ce qu'il s'est passé ?
Alors Tiphaine avait soigneusement préparé son voyage pour le Japon, puis d'un seul coup, plus de nouvelles. Quelques jours après, nous avons reçu un message de l'ambassade nous expliquant que Tiphaine avait disparu. Donc nous avons pris immédiatement des billets d'avion pour aller sur place. Nous pensions la retrouver très rapidement, que ce soit dans un hôpital ou ailleurs. Finalement, depuis 4 ans, on la recherche toujours.
4 ans plus tard, donc on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. Ce livre, c'est le récit de 4 années particulièrement éprouvantes pour toute votre famille. Vous y avez fait front ensemble. Est-ce que c'est pour cela que vous avez écrit le livre ensemble ou comment l'avez-vous écrit, Sybille ?
Alors en fait, c'est un livre qu'on a écrit ensemble, mais à l'origine, c'est Damien, pendant le Covid. En fait, on devait partir au Japon, mars 2020, les frontières ferment. Et là, Damien, coincé chez lui, se dit « bon, je peux pas rester sans rien faire, je vais écrire ». Sauf que tout ce qu'on a vécu, il a fallu le vérifier ensemble. Moi, j'ai commencé à l'aider, recouper les informations. Est-ce qu'on a les mêmes notes? Est-ce que ce qu'il raconte est, c'est bien comme ça qu'on l'a tous vécu? Enfin bref, on a commencé à partager tout ça. Et comme, cette enquête, on l'a menée ensemble. Enfin, tous les deux en première ligne, surtout. Ça finit par être un projet commun. On a écrit ensemble pour raconter tout ça.
Après la disparition, il y a dans un premier temps l'enquête avec les policiers japonais. À la violence de la perte d'une sœur ou d'une fille pour votre mère, c'est donc ajouté très vite les difficultés de communication avec la police japonaise.
Mais tout à fait, très rapidement. Alors c'est paradoxal parce que si vous voulez, lorsque Tiphaine a disparu, les policiers japonais nous ont tout de suite dit qu'ils ne feraient pas d'enquête. Donc nous avons médiatisé sur place. Donc finalement, la carte de la médiatisation a fait que la police locale a fini par nous recevoir avec l'ambassadeur. Cependant, malgré le canal Interpol, il refusait de parler à la police française. Donc on s'est retrouvé en première ligne, malgré nous, à devoir essayer de décrypter déjà le choc culturel entre la France et le Japon, mais aussi à devoir essayer de récupérer des éléments d'enquête pour alimenter la justice française. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de rédiger ce récit, c'est qu'on s'est retrouvé en immersion au Japon, avec d'autres modes culturels.
Une langue que vous ne parlez pas.
Mais tout à fait.
Ce qui est impressionnant à la lecture de ce livre, c'est la façon dont, rapidement, on voit comment chacun d'entre vous se spécialise dans des domaines dont j'imagine que vous ignoriez peut-être tout avant. Le bornage des téléphones, les relevés de pluviométrie, le débit de la rivière, quitte à être parfois plus précis que vos interlocuteurs japonais.
Ce qui est terrible dans cette histoire et ce qu'on raconte dans le livre, c'est que très vite, les policiers japonais qui songeaient dès le début à la piste criminelle se disent finalement « Oh là là, ça va être trop compliqué, c'est un accident, rentrez chez vous ». Et en fait, il y a eu un typhon, votre sœur, elle est partie dans la rivière, on la retrouvera jamais. Et en fait, déjà, on a dû prouver qu'il n'y avait jamais eu de typhon, que tout ça c'était faux. On a dû faire nos propres recherches. Heureusement, on pouvait compter sur les expertises de Damien en termes d'hydrologie, il connaît les plantes, il est paysagiste, etc. Moi, je me suis plutôt occupée du volet téléphonie avec notre plus jeune frère. Forcément, il voulait pas enquêter. Donc on a été obligé de se substituer à ça et se renseigner et pousser toujours plus loin la quête d'informations. Et par exemple, pour le téléphone, on comprenait pas. On disait, mais bon, alors, est-ce que vous avez le bornage du téléphone ? Non, c'est pas possible de récupérer, c'est un téléphone étranger. Non, en fait. C'était pas ça le problème, c'est que le téléphone a été brutalement cassé. Et il a fallu qu'on contacte Xavier Niel par des mails, son équipe.
Xavier Niel, l'opérateur de Free, qui a pu vous donner des informations concernant le téléphone de votre sœur. Et ces informations qui auraient pu être fondamentales si vous les aviez eues dès le début.
Ah oui. En fait, c'est quand même utile de savoir qu'a priori, si quelqu'un est tombé dans la rivière, on le retrouve. C'est quand même fondamental de savoir qu'un téléphone a cessé d'émettre pour des raisons anormales. Et en fait, tout ça, ça se recoupe aussi avec des témoignages. Et c'est l'autre problème dans cette enquête, et ce qu'on raconte aussi dans le livre, c'est qu'il n'y a pas d'audition. Et en fait, encore aujourd'hui, nos avocats se battent pour avoir des auditions, pour recouper les emplois du temps des uns et des autres, rien qu'au départ de l'hôtel.
Et on vous sent tout le temps tenaillé entre la volonté de respecter la culture de vos interlocuteurs japonais et puis ce besoin de faire la lumière sur ce qui se passe. Ça, c'est délicat.
Mais très délicat, surtout que l'ambassadeur nous prévient. Il nous dit, vous avez des interlocuteurs, ils vous reçoivent, surtout ne les brusquez pas. Donc oui, c'est difficile, on est obligé de jongler entre d'un côté la frustration de ne pas obtenir des pistes évidentes. Vous avez par exemple une personne suspecte qui nous a directement interpellé avec Sibylle en expliquant qu'il savait où était Tiphaine. Vous avez énormément de faits divers, ou même l'hôtelier lui-même explique que Tiphaine est partie avant 10h, alors qu'en fait, grâce à nos recherches, on voit qu'elle part pratiquement à midi de l'hôtel. Donc tout ça, on se dit, mais il faut chercher, ils le font pas. Donc effectivement, c'est horrible parce qu'on est frustré, énervé, on n'a pas de réponse, et en même temps, c'est ça, vous avez raison, il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas les bousculer, sinon ils vous disent, au revoir.
Et on sent un peu d'amertume quand vous évoquez l'histoire de Narumi, cette jeune japonaise qui a été tuée en France et pour laquelle la police française a au contraire développé des recherches, a fait le maximum et a trouvé l'assassin.
Mais oui, cette histoire elle est intéressante puisque le Japon a mis une pression sur la France énorme en disant mais c'est pas normal, vous devez retrouver le criminel. Donc il y a eu des recherches mais colossales qui ont été faites de la France. Le juge d'instruction en personne a mené des vraies investigations. Et finalement, en partant de la chambre d'hôtel où elle a disparu, ils ont fini par retrouver des traces et finalement trouver le criminel qui d'ailleurs il y a quelques temps a été condamné en France. Alors que Tiphaine, il y a eu des traces de sang dans sa chambre et finalement rien n'a démarré.
On vous sent passer par des moments d'impuissance, de découragement peut-être, mais pourtant vous ne renoncez jamais.
Mais c'est impossible de renoncer à partir du moment où il n'y a pas d'enquête. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'enquête criminelle qui est menée, une enquête solide, où on part de l'hôtel et on interroge les gens et on sait pourquoi il y a des traces de sang qui apparaissent dans sa chambre, etc., à partir du moment où il n'y a pas cette base-là solide, on ne peut pas abandonner. On ne dit pas que dans quelques années, si nous, notre enquêteur privé qu'on a recruté, si nos avocats, etc., estiment qu'il y a déjà un maximum d'actes d'investigation qui ont été faits, là, peut-être qu'on arrêtera. Ça me paraît difficile à croire. Mais bon, déjà, je pense qu'on peut peut-être retrouver Tiphaine si on mène une enquête.
Alors, il vous revient que si vous agacez parfois, c'est peut-être parce que vous médiatisez trop vos recherches. On vous laisse entendre une fois, en tout cas, que ça vous dessert. Comment avez-vous réagi à cela ?
Alors moi, ça m'a choqué quand j'ai appris ça, puisque l'objectif de la médiatisation, c'était de faire en sorte que la France ait les moyens de se faire entendre au Japon, et non pas de bousculer notre camp. Nous, on s'est dit, Tiphaine est française, on a besoin du juge d'instruction, on a besoin de la police française. Le fait de médiatiser, c'était pour montrer justement qu'il n'y avait pas d'enquête au Japon. Donc oui, pour nous, c'est le monde à l'envers. Surtout qu'on a assuré un lien avec la police nippone. Justement, on a essayé de ne pas se frustrer, de ne pas s'agacer pour ne pas rompre ce lien. Donc l'objectif, c'était justement que la France en profite. Et ça n'a pas été le cas.
Pour les 3 ans de la disparition de Tiphaine, vous obtenez une aide de l'actrice Fanny Ardant qui enregistre un message, une fresque est par ailleurs réalisée. Et vous décidez de changer de tactique en ce qui concerne l'enquête.
Alors on interpelle le juge d'instruction directement. On fait un rassemblement devant le palais de justice, puisque Maître Antoine Vey, donc c'est aussi pour nous quelque chose d'important dans notre combat, puisqu'il a accepté de nous rejoindre par le biais d'Éric Dupond-Moretti. Donc ça prouve qu'il croit en notre combat, donc ils l'ont légitimé. Donc en faisant une demande d'acte, nous on demandait simplement que le juge d'instruction aille au Japon, puisque le sens du protocole au Japon fait que quand vous y allez, ça n'a rien à voir, il vous reçoit. Et donc, l'objectif, c'était qu'elle y aille, elle a refusé d'y aller. Donc là, on était vraiment indignés. Donc on a décidé, effectivement, de faire un rassemblement devant le palais de justice de Poitiers pour dénoncer son refus d'y aller.
On était indignés et on a, sur conseil de nos avocats, décidé de recruter un détective privé, Jean-François Abral, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on peut pas forcer les Japonais, les policiers japonais à enquêter. Alors, peut-être qu'ils enquêtent en coulisses, c'est pas ce qu'on comprend, c'est pas ce qu'ils donnent comme réponse à la justice française. Mais en tout cas, nos avocats se sont dit, pas d'enquête, il faut recruter quelqu'un et quelqu'un de compétent. Et donc, heureusement, on nous a mis sur le chemin de Jean-François Abral, qui est un ancien gendarme, qui a monté sur la société privée et qui a, entre autres, réussi, au moment où il n'y avait pas forcément les techniques d'enquête d'aujourd'hui, à coincer Francis Holmes, des tueurs en série comme ça. Donc pour nous, on fait confiance à Jean-François Abral. On sait très bien qu'il peut retrouver Tiphaine.
Et une dernière chose, donc c'est important, c'est que une commission rogatoire internationale avait été envoyée par le juge français au japonais, qui est revenu la semaine dernière, enfin qui a été traduit, enfin, et en fait il se trouve qu'il n'y a rien dans cette commission rogatoire internationale. Donc pas de questions, on demandait que les suspects soient auditionnés. Ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, le déplacement du juge est vraiment important. Donc quel juge ? En tout cas, il faut absolument qu'un magistrat français se déplace à Nikko, sinon on n'aura jamais de réponse sur certains points.
Le détective privé, il a déjà trouvé quelque chose ?
On ne peut pas parler de ce que Jean-François Abgrall est en train de faire, enfin, c'est compliqué. Des témoignages lui arrivent, et des témoignages importants. Il a vraiment, même à distance, parce qu'on attend qu'il puisse aller sur place, il a quand même réussi à recueillir beaucoup d'informations sur le climat criminologique de Nico et de la région. Pour lui, c'est vraiment un endroit où il se passe des choses terribles. C'est normal, il y a des temples au milieu des forêts, donc en fait, il y a à la fois beaucoup de monde et c'est des lieux très isolés. Donc bref, il a connaissance de faits récurrents, d'agressions récurrentes, il a des témoignages sur lesquels s'appuyer. Lui, il avance pas à pas et il doute pas qu'on va trouver des choses.
Sibylle et Damien Véron, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Tiphaine, où es-tu, paru aux éditions Robert Laffont.